grand Dieu, dit Tabari. Et il se mit à réciter des prières en latin. Villon, tout à coup, éclata d'un rire hystérique. Il s'avança, fit à Thévenin un salut ridicule, et se mit à rire plus fort. Alors, il tomba comme une masse sur un tabouret et continua de rire amèrement, le corps secoué comme s'il allait éclater. Montigny retrouva du calme le premier. Voyons ce qu'il a sur lui, remarqua-t-il. Et il se mit à fouiller les poches du mort d'une main habile au métier. Il partagea l'argent en 4 parts égales et les posa sur la table. Voilà pour vous, dit-il. Le moine reçut ce qui lui revenait avec un profond soupir et jeta un regard furtif sur Thévenin qui commençait à s'affaisser et pencher du côté sur la chaise. Nous voilà tous dedans, cria Villon, réprimant son accès de gaieté. C'est la corde pour nous tous ici présents, et même pour ceux qui n'y sont pas. Il éleva la main avec un geste de répugnance, tira la langue et pencha la tête de côté, pour imiter l'apparence d'un pendu. Puis il empocha sa part du butin et se mit à battre des pieds en dansant comme pour activer la circulation de son sang. Tabari fut le dernier à prendre sa part. Il sauta sur l'argent et se retira à l'autre bout de la salle. Montigny fixa Thévenin droit sur la chaise et retira sa dague, qui fut suivie d'un jet de sang. Vous ferez bien de quitter la place, mes camarades, dit-il en essuyant la lame sur le pourpoint de sa victime. C'est ce qu'il me semble, répondit Villon avec un étouffement. Le diable emporte sa tête de truie, s'écria-t-il ensuite avec rage. Elle me tient à la gorge comme une pituite. De quel droit un homme a-t-il des cheveux rouges quand il est mort? Et il retomba lourdement sur le tabouret, se couvrant la figure de ses mains. Montigny et Don Nicolas rirent très fort. Même Tabari, faiblement, se joignit à eux. Pleure, bébé, dit le moine. J'ai toujours dit que c'était une femme, ajouta Montigny avec un geste de mépris. Tiens-toi droit, veux-tu, continua-t-il en secouant le cadavre. Éteins le feu, Nicolas. Mais Nicolas employait mieux son temps. Il était tranquillement en train d'enlever sa bourse à Villon, qu'il avait mise dans sa poche, pendant qu'agité et tremblant, ce dernier était assis sur le tabouret où, 2 minutes auparavant, il écrivait sa ballade. Tout en plaçant le petit sac en dedans de sa robe, sur sa poitrine, le moine, d'un clignement d'yeux, promit de partager avec Montigny et Tabari, qui lui en avaient fait la demande d'un geste silencieux. On ne peut nier qu'en beaucoup d'occasions, un tempérament artistique rend un homme peu propre à l'existence pratique. Bientôt, cependant, Villon se secoua, sauta debout et se mit en devoir, comme les autres, d'éparpiller et d'éteindre le feu. Avec beaucoup de précautions, Montigny ouvrit la porte et attentivement examina la rue. Le chemin était libre. Il n'y avait aucune patrouille indiscrète en vue. Toutefois, on jugea plus sage de ne pas partir ensemble, Villon lui-même ayant hâte de partir, et les autres ne demandant pas mieux que d'être débarrassés de lui avant qu'il eût découvert le vol de son argent. Il fut le premier qui sortit. Le vent triomphant avait emporté tous les nuages du ciel. Quelques vapeurs minces fuyaient rapidement à travers les étoiles. Il faisait un froid glacial, et, par un effet d'optique assez commun, les objets apparaissaient plus définis, même qu'au grand jour. La ville endormie était complètement silencieuse. des rangées de capuchons blancs, un champ rempli de petits monticules sous les étoiles scintillantes. Villon maudit son sort. Pourquoi ne neigeait-il plus? Maintenant, n'importe où il irait, il laisserait une trace ineffaçable derrière lui, dans les rues étincelantes. N'importe où il irait, il serait toujours lié à la maison du cimetière Saint-Jean. N'importe où il irait, de ses propres pieds, il tisserait la corde qui l'attacherait au crime et le conduirait au gibet. Le coin de l'œil ouvert du mort lui revint à la mémoire avec une nouvelle signification. Il fit claquer ses doigts comme pour ramasser ses esprits, et prenant une rue au hasard, il s'avança courageusement dans la neige. Tout en marchant, deux choses le préoccupaient. D'abord, l'aspect du gibet de Montfaucon pendant cette nuit claire et pleine de vent, et ensuite, le regard du mort avec sa tête chauve et sa guirlande de cheveux rouges frisés. Toutes les deux lui faisaient froid au cœur, et il marchait de plus en plus vite, comme si l'agilité de ses pieds pouvait l'emporter loin de ses lugubres pensées. Quelquefois il se retournait, regardant par-dessus son épaule par saccade nerveuse, mais il était le seul être vivant dans les rues blanches, et le seul mouvement perceptible était celui de la neige soulevée en poussière brillante par les rafales. Il distingua tout à coup devant lui une masse noire et deux lanternes. La masse était en marche, si l'on en pouvait juger par les lanternes qui se balançaient comme portées par des hommes. C'était une patrouille. Quoiqu'elle ne fît que traverser sa route, il jugea prudent de se mettre hors de vue aussi vite qu'il le put. Il n'était pas d'humeur à être questionné, et il laissait des traces très visibles dans la neige. Directement à sa droite, il y avait un grand hôtel avec des tonnelles et un grand porche devant la porte. Il se rappela que cet hôtel était inhabité et à moitié en ruine. En trois enjambées, il fut près du porche et sauta sous son abri. Au sortir de la lumière reflétée par la neige des rues, il y faisait très noir, et, les mains étendues, il essayait de pénétrer plus avant, quand il se heurta à un objet offrant un mélange inexplicable de résistance, dur et mou, ferme et branlant. Le cœur lui sauta. Il fit un saut en arrière et fixa un regard effrayé sur l'obstacle. Il fit alors entendre un petit rire de soulagement. Ce n'était qu'une femme, et une femme morte. Il s'agenouilla à son côté pour s'assurer de ce dernier point. Elle était glacée et rigide comme un bâton. Un petit chiffon de parure flottait au vent dans ses cheveux, et elle avait une épaisse couche de fard sur les joues, appliquée sans aucun doute cette même après-midi. Ses poches étaient entièrement vides, mais dans son bas, sous la jarretière, Villon trouva deux petites pièces de monnaie, appelées des blancs. C'était bien peu, mais c'était toujours quelque chose, et le poète fut remué d'un profond sentiment de pitié en pensant qu'elle était morte sans pouvoir dépenser son argent. Cela lui semblait être un mystère triste et impénétrable. Il jeta les yeux sur l'argent et ensuite sur la femme, les reportant sur l'argent. Il secoua la tête à l'énigme de la vie humaine. Henri V d'Angleterre, mourant à Vincennes tout de suite après sa conquête de la France, et cette pauvre coquine allant mourir de froid sous une porte avant d'avoir pu dépenser ses deux blancs, lui semblait une manière cruelle de faire marcher le monde. Deux blancs à dissiper ne lui auraient pourtant pris que peu de temps, et c'eût été pour sa bouche une douce saveur de plus, encore un doux claquement des lèvres, avant que le diable prît son âme et que son corps fût livré à la vermine et aux oiseaux de proie. Il aimerait, pour lui, user tout le suif avant que la lumière s'éteigne et que la lanterne se brise. Pendant que ces pensées lui traversaient l'esprit, machinalement, il cherchait sa bourse. Son cœur, tout à coup, cessa de battre. Une sensation de froid lui passa sur les mollets et un coup glacial sembla le frapper sur la tête. Pendant un instant, il resta pétrifié, puis il se tâta de nouveau d'un mouvement fiévreux et alors il comprit sa perte. De suite, il fut couvert de sueur. Ô dépensier, l'argent est si vivant, si palpable, il n'est qu'un voile si fin entre eux et leurs plaisirs. Leur fortune n'a qu'une limite, celle du temps. Et le prodigue, avec quelques louis, est l'empereur de Rome jusqu'à ce qu'il soit dépensé. Pour un homme de cette sorte, la perte de son argent est le plus cruel des revers. C'est tomber du ciel à l'enfer, de tout à rien, dans l'espace d'un souffle. Il n'en souffre que davantage s'il a exposé sa tête pour se le procurer, s'il court le risque d'être pendu le lendemain pour cette même bourse gagnée si chèrement, partie si stupidement. Villon laissa échapper tous les jurons de son vocabulaire. Il jeta avec fureur les deux blancs dans la rue. Il montra le poing au ciel, il frappa du pied et ne ressentit aucune horreur quand il se surprit piétinant sur le pauvre cadavre. Alors, il remonta rapidement le chemin qui menait à la petite maison du cimetière. Il avait oublié toutes ses craintes de la patrouille, qui d'ailleurs était passée depuis longtemps, et il ne pensait qu'à sa bourse perdue. Il regarda en vain à droite et à gauche sur la neige, il ne vit rien. Il ne l'avait pas perdue dans la rue. Serait-elle tombée dans la maison? Il aurait bien voulu y rentrer et voir, mais la pensée de son sinistre habitant lui ôta tout courage. Et de plus, en s'approchant, il vit que leurs efforts pour éteindre le feu avaient été nuls, qu'il avait repris au contraire, avec une nouvelle vigueur, et la lumière, sortant par les crevasses de la porte et des fenêtres, renouvela sa terreur des autorités et de la potence parisienne. Il revint vers l'hôtel et se traîna sur la neige pour retrouver l'argent qu'il y avait jeté dans sa fureur enfantine. Mais il ne retrouva qu'un blanc. L'autre, sans aucun doute, était tombé sur le côté et s'était enfoncé profondément dans la neige. Avec un seul blanc dans sa poche, tous ses projets pour une nuit de débauche dans quelque taverne s'évanouirent. Non seulement le plaisir s'échappait en riant de son étreinte, mais un certain malaise l'envahit. La transpiration s'était séchée sur lui, et quoique le vent fût tombé, le froid devenait de plus en plus vif. Il se sentit paralysé, et le cœur lui manqua. Que devait-il faire? Malgré l'heure avancée et la réussite improbable, il se décida à essayer la maison de son père d'adoption, le chapelain de Saint-Benoît. Il courut tout le long du chemin et frappa timidement. On ne répondit pas. Il frappa encore et encore, reprenant du cœur à chaque coup, et enfin, il entendit des pas s'approcher de l'intérieur. Un guichet s'ouvrit sur la porte clouée de fer, et laissa passer un jet de lumière jaune. « Approchez la figure du guichet !» dit le chapelain de l'intérieur. « C'est seulement moi !» pleurnicha Villon. « Ah, c'est seulement vous !» répliqua le chapelain. Il l'accabla alors d'une foule de jurons indignes d'un prêtre pour l'avoir dérangé à une telle heure, et l'engagea à retourner au diable d'où il venait. J'ai les mains bleues jusqu'aux poignets, mes pieds sont morts et me font mal, l'air piquant me cause des douleurs au nez. J'ai froid au cœur, je serai peut-être mort avant le matin. Seulement pour cette fois, mon père, et devant Dieu, je ne vous redemanderai plus jamais. Vous auriez dû venir de meilleure heure, dit froidement l'ecclésiastique. Les jeunes gens ont besoin d'une leçon de temps en temps. Il ferma le guichet et sans hésitation rentra dans l'intérieur de la maison. Villon ne se possédait plus. Il frappa des pieds et des mains sur la porte et à grands cris appela le chapelain. « Vieux renard véreux ! » s'écria-t-il enfin. « Si je pouvais t'attraper, je t'enverrais la tête la première dans l'abîme sans fond !» Le bruit faible d'une porte se fermant dans la maison, au bout de longs corridors, arriva jusqu'au poète. Il s'essuya la bouche avec le revers de la main tout en jurant. Et alors, le côté ridicule de la situation le frappa. Il rit et leva les yeux au ciel, où les étoiles semblaient trembloter au malheureux résultat de son entreprise. Qu'allait-il faire? Cela avait tout l'air d'une nuit à passer dans les rues glacées. La pensée de la femme morte le frappa tout à coup et lui fit une belle peur. Ce qui lui était arrivé à elle au commencement de la nuit pourrait bien lui arriver à lui avant la fin. Lui si jeune, avec tant de chances, de plaisir et de débauche devant lui. Il se sentit plus touché à la pensée de ce que pourrait être son sort que si c'eût été le sort d'un autre, et il se traça en imagination la scène qui s'ensuivrait le matin quand on trouverait son corps. Il passa en revue toutes ses chances, tournant et retournant son blanc entre le pouce et l'index. Malheureusement, il était en de mauvais termes avec de vieux amis qui auraient pu avoir pitié de lui dans une telle calamité. Il avait écrit des satires contre eux en vers, il les avait battus et dupés, et pourtant, en se sentant serré de si près, il pensait qu'il y en avait un au moins parmi eux qui peut-être s'attendrirait. C'était une chance à courir, mais elle valait la peine d'essayer, et il irait voir. En chemin, il lui arriva deux petits incidents qui apportèrent une autre couleur à sa rêverie. D'abord, il tomba sur les pas d'une patrouille qu'il suivit pendant quelques centaines de mètres, quoiqu'elle allât dans une direction opposée à sa route. Cela le rassura un peu. Il avait au moins confondu sa trace, car il était encore sous l'empire de l'idée d'être traqué à travers tout Paris, dans la neige, et appréhendé au collet le lendemain matin avant d'être éveillé. Il fut ensuite frappé bien différemment. Il passa un coin de rue où, pas très longtemps auparavant, une femme et son enfant avaient été dévorés par des loups. Il réfléchit que le temps était des plus propices pour le renouvellement d'une telle aventure, et dans ces rues désertes, un homme n'en serait sûrement pas quitte pour la peur. Il s'arrêta et regarda autour de lui avec un intérêt des plus désagréables. C'était un centre où plusieurs ruelles s'entrecroisaient. Il les scruta toutes d'un bout à l'autre, retenant son haleine, se demandant s'il ne voyait pas quelque objet noir galopant sur la neige, ou s'il n'entendait pas des rugissements entre lui et la rivière. Il se rappela sa mère lui racontant cette histoire quand il était encore enfant. Sa mère. Si seulement il savait où elle demeurait, il serait sûr au moins d'un abri. Il résolut de s'informer le lendemain, puis il irait la voir, la pauvre vieille. Tout en faisant ses raisonnements, il arriva à destination, son dernier espoir pour la nuit. Comme toutes les autres, la maison était dans une obscurité complète. Cependant, après quelques coups frappés, il entendit du bruit sur sa tête, le bruit d'un volet, et une voix méfiante demanda qui était là. Le poète se nomma, sur un ton bas, mais intelligible, et attendit, non sans un certain effroi, le résultat. Il ne se fit pas attendre. Une fenêtre s'ouvrit tout à coup et un baquet plein d'eau sale s'éclaboussa sur le seuil de la porte. Villon s'était un peu préparé à quelque chose de semblable et il s'était mis hors de portée autant que la structure du porche le lui avait permis. Mais malgré tout, il fut déplorablement trempé jusqu'à la ceinture. Son haut de chausse fut gelé presque instantanément. Il se vit déjà mort de froid. Il se souvint qu'il avait une tendance à la phtisie, et il se mit à tousser en manière d'essai. Mais la gravité du danger lui calma les nerfs. Il s'arrêta à quelques 100 mètres de l'endroit où il avait été si maltraité, et il réfléchit le doigt au nez. Il ne voyait qu'un moyen d'avoir un refuge pour la nuit, c'était de le prendre. Il avait remarqué une maison non loin de là, dans laquelle il paraissait assez aisé de s'introduire. Il se dirigea de ce côté promptement, s'amusant en route à s'imaginer une chambre encore chaude, avec une table encore chargée des restants du souper. Il y passerait le restant de la nuit, et il en sortirait le lendemain, les bras pleins d'argenterie de valeur. Il considérait même les mets et les vins qu'il préférerait, et tout en se rappelant ses plats favoris, le poisson rôti se présenta à son esprit, dans un mélange étrange d'amusement et d'horreur. « Je ne finirai jamais cette balade, » pensa-t-il, et tressaillant à ce souvenir. « Que le diable emporte sa tête de truie, » répéta-t-il avec ferveur, et il cracha sur la neige. La maison en question lui parut toute noire à première vue. Mais comme il faisait une inspection préliminaire en vue d'un bon point d'attaque, un filet mince de lumière frappa son œil, venant d'une fenêtre garnie de rideaux. « Diable !» pensa-t-il. « Des gens éveillés. Quelque étudiant ou quelque saint. Maudit soit-il. Ne pourrait-il pas tout aussi bien se saouler, aller se coucher et ronfler comme leurs voisins ? À quoi servent le couvre-feu et les pauvres diables de sonneurs de cloches sautant au bout d'une corde dans les tours? À quoi sert le jour si les gens veillent toute la nuit? Que la peste les étouffe! Il ricana en s'apercevant où sa logique le conduisait. Chacun a ses affaires après tout, ajouta-t-il, et s'ils sont éveillés, pardieu, je puis peut-être honnêtement bien souper pour une fois et attraper le diable. Il alla courageusement à la porte et frappa avec assurance. Dans les deux premières occasions, il avait frappé timidement, avec crainte d'attirer l'attention. Mais pour le moment, après avoir rejeté la pensée d'une entrée par effraction, frapper à une porte lui semblait être un procédé des plus simples et des plus innocents. Le bruit de ses coups se répéta par toute la maison. Et le son c'était à peine éteint qu'un pas mesuré s'approcha. Une ou deux barres de fer furent ôtées, et un côté de la porte fut grand ouvert, montrant que les habitants de cette maison ne connaissaient pas la peur. Un homme de haute stature, musculeux, sec et un peu courbé, dévisagea Villon. Sa tête était massive et cependant finement sculptée. Le nez, plat au bout, avait une certaine distinction vers le haut, où il joignait une forte paire de sourcils, respirant l'honnêteté. La bouche était entourée de rides délicates, et l'ensemble du visage reposait sur une épaisse barbe blanche d'une coupe carrée et hardie. La lumière vacillante de la lampe prêtait peut-être à cette tête plus de noblesse qu'elle n'en avait réellement. Néanmoins, c'était une belle tête, respectable plutôt qu'intelligente, forte, simple et loyale. « Vous frappez tard, monsieur, » dit le vieillard, d'un ton courtois. Villon se fit petit et murmura quelques mots serviles d'excuses. Dans une crise de cette sorte, le mendiant prenait le dessus chez lui et l'homme de génie se cachait la tête avec confusion. « Vous avez froid et faim ?» répéta le vieillard. « Eh bien, entrez !» et il l'invita à pénétrer dans la maison d'un geste noble. Quelque grand seigneur, pensa Villon, pendant que le maître de la maison, après avoir posé la lampe à terre, remettait en place les barres de fer à la porte. Vous m'excuserez si je vais devant, dit-il quand ce fut fait. Et il précéda le poète dans l'escalier et dans une grande pièce chauffée par un réchaud rempli de charbon et éclairée par une grande lampe suspendue au plafond. Il y avait peu de meubles, seulement quelques vaisselles d'or sur un buffet, quelques volumes in folio et une armure placée entre les deux fenêtres. De belles tapisseries étaient pendues au mur, une représentant le crucifixion de notre Seigneur, une autre, une scène de berger et de bergère, près d'un petit ruisseau. Sur la cheminée, une panoplie d'armes. Prenez la peine de vous asseoir, dit le vieillard, et excusez-moi si je vous quitte. Je suis seul à la maison ce soir, et si vous désirez manger, il faut que j'aille vous chercher quelque chose moi-même. Il ne fut pas plus tôt parti que Villon sauta de la chaise sur laquelle il venait de s'asseoir et se mit à examiner tout ce qu'il avait autour de lui avec la prudence et la convoitise d'un chat. Il pesa les flacons d'or dans sa main, ouvrit les livres, compta les armes sur la panoplie et essaya de découvrir avec quoi les sièges étaient rembourrés. Il souleva les rideaux et vit que les fenêtres étaient garnies de riches vitraux composés de figures d'aspect martial, autant qu'il en put juger. Il revint alors au milieu de la chambre, respira fortement et, tournant à plusieurs reprises sur ses talons, examina bien le tout, comme s'il eût voulu retenir dans sa mémoire chaque détail de l'appartement. Cette pièce de vaisselle, dit-il, s'il y en avait eu 10, je l'aurais risqué. Une belle maison et un maître à l'avenant, que les saints me viennent en aide. À ce moment, il entendit les pas du vieillard revenant le long du corridor. En un bond, il fut sur sa chaise et humblement se mit à se chauffer les jambes près du réchaud. Le maître de la maison avait un plat de viande dans une main et un broc de vin dans l'autre. Il posa le plat sur la table, faisant signe à Villon d'approcher sa chaise, et, allant au buffet, il en rapporta deux verres qu'il emplit. « Je bois à votre meilleure chance, » dit-il gravement, touchant le verre de Villon avec le sien. « À une plus ample connaissance, » dit le poète s'enhardissant. Un simple homme du peuple eût été embarrassé par la courtoisie du vieux seigneur. Mais Villon était vieux à ce jeu. Il avait plus d'une fois amusé des grands seigneurs, et il les trouvait d'aussi grands fripons que lui. Donc il se donna tout entier aux aliments posés devant lui, les dévorant avec voracité, pendant que le vieillard, renversé sur sa chaise, le regardait incessamment d'un œil curieux. « Vous avez du sang sur votre épaule, mon garçon, » dit-il. Montigny devait avoir posé sa main droite sur lui quand il était sorti de la maison. Dans son cœur, il maudit Montigny. « Ce n'est pas moi qui l'ai versé, » bégaya-t-il. « Je ne le pensais pas, » répondit le maître de la maison paisiblement. « Une querelle ?»« Oui. » « Quelque chose comme cela, » admit Villon avec un tremblement de voix. « Un meurtre, peut-être ?»« Oh non, pas un meurtre, » dit le poète de plus en plus confus. « Le combat était loyal, tué par accident. Que Dieu me frappe de mort si j'y ai pris part » ajouta-t-il avec ferveur. « Un fripon de moins, il est probable, » observa le maître de la maison. « Là, vous avez raison, » dit Villon, infiniment soulagé. « Le plus grand fripon qu'il y ait d'ici à Jérusalem, il est mort assez doucement, mais ce n'était pas une belle chose à voir. Sans aucun doute, vous avez vu des morts dans votre temps, monseigneur, ajouta-t-il, jetant un regard sur l'armure. Un grand nombre, dit le vieillard. J'ai suivi les guerres, comme vous le voyez. Villon posa sa fourchette et son couteau. Y en avait-il de chauves? Demanda-t-il. Certainement, et il y en avait avec des cheveux aussi blancs que les miens. Il me semble que les cheveux blancs ne me feraient pas autant d'impression, dit Villon. Les siens étaient rouges. Et il y eut un retour de son tremblement et d'envie de rire, lequel il noya dans une grande gorgée de vin. Cela m'émotionne un peu quand j'y pense, continua-t-il. Je le connaissais. Que le diable l'emporte. Et aussi le froid vous donne des idées, ou les idées vous donnent froid. Je ne sais plus lequel. Avez-vous de l'argent? Demanda le vieillard. J'ai un blanc, répondit en riant le poète. Je l'ai pris dans le bas d'une coquine morte sous un porche. Elle était raide morte, pauvre fille, et froide comme un marbre. Elle avait des petits bouts de ruban dans les cheveux. Ce monde est bien dur en hiver pour les loups, les filles et de malheureux fripons comme moi. Moi, dit le vieillard, je suis Enguerrand de la Feuillée, seigneur de Brisetout, bailli du Patatrac. Qui et que pouvez-vous être? Villon se leva et fit une révérence appropriée à la circonstance. « On m'appelle, dit-il, François Villon. Je suis un pauvre maître S.A.R. de cette université. Je sais un peu de latin et connais beaucoup de vices. Je puis faire des chansons, des ballades, des laits, virelais et rondeaux. J'aime le bon vin. Je suis né dans un grenier et, très probablement, je mourrai sur le gibet. Je puis ajouter qu'à partir de ce soir, je suis le plus humble des serviteurs de votre seigneurie. Non pas mon serviteur, dit le chevalier. Mon hôte pour ce soir, pas davantage. Un hôte très reconnaissant, dit Villon poliment, et d'un geste silencieux, il but à la santé du maître de la maison. Vous êtes fin, commença le vieillard en se tapant le front, très fin. Vous avez dû savoir. Vous êtes un clerc, et cependant, vous prenez une petite pièce d'argent à une femme morte dans la rue? N'est-ce pas une espèce de vol? C'est une espèce de vol qui se pratique beaucoup dans les guerres, monseigneur. Les guerres sont le champ d'honneur, reprit le vieillard avec orgueil. L'homme joue sa vie sur un coup de dé. Il combat au nom de son seigneur Dieu et toutes les seigneuries des saints et des anges. Mettons, dit Villon, que vraiment j'ai été un voleur. Ne jouais-je pas ma vie aussi, et contre un nombre de points beaucoup plus grand?
Pour du gain, mais pas pour l'honneur.
Du gain? Répéta Villon avec un haussement d'épaules. Du gain? Un malheureux diable a besoin de souper, et il le prend. De même fait le soldat en campagne. Voyons, que veulent dire toutes ces réquisitions dont nous entendons parler? Si ce n'est pas du gain pour ceux qui les font, les pertes se font toujours sentir pour les autres. Les hommes d'armes boivent près d'un bon feu pendant que le bourgeois se ronge les ongles pour leur acheter du vin et du bois. J'ai vu pas mal de laboureurs se balancer aux arbres dans la campagne. Oui, j'en ai vu 30 sur un seul orme. Et quand j'ai demandé ce qu'ils avaient fait, on m'a répondu que c'était parce qu'ils n'avaient pas pu amasser tous ensemble assez de pistoles pour satisfaire les hommes d'armes. Ce sont les nécessités de la guerre que les gens de basse naissance doivent endurer avec résignation. Il est vrai qu'il y a des capitaines qui vont trop loin. Il y a des esprits dans toutes les classes qui ne se laissent pas aisément émouvoir par la pitié. Et il est vrai qu'il y en a beaucoup parmi ceux qui suivent la profession des armes qui ne valent pas mieux que des brigands.
Vous voyez, dit le poète, vous ne pouvez séparer le soldat du brigand. Et qu'est-ce qu'un voleur, si ce n'est un brigand isolé avec des manières circonspectes ? Je vole 2 côtelettes de mouton, sans même déranger le sommeil des gens. Le fermier grogne un peu, mais il n'en soupe pas avec moins d'appétit du restant. Vous venez, soufflant glorieusement de la trompette, vous prenez le mouton entier, et battez le fermier sans miséricorde par-dessus le marché. Je n'ai pas de trompette. Je suis simplement Pierre, Jean ou Paul. Alors je suis un fripon, un chien, et la corde est encore trop bonne pour me pendre. De tout mon cœur, mais demandez au fermier lequel de nous deux il préfère et lequel il maudit. La nuit, quand le froid le tient éveillé. Regardez-nous, nous deux, dit sa seigneurie. Je suis vieux, puissant et honoré. Si demain j'étais sans maison, des centaines de gens seraient fiers de m'abriter. Les pauvres iraient passer la nuit dans la rue avec leurs enfants, si seulement je faisais entendre que je désirais être seul. Et vous, je vous trouve errant, sans domicile, et volant des blancs à une femme morte sur les grands chemins. Je n'ai peur ni de l'homme ni de rien. Je vous ai vu trembler et perdre contenance à un mot. J'attends, content, dans ma maison, les ordres de Dieu ou un appel du roi m'envoyant encore sur le champ de bataille. Vous, vous attendez la potence, une mort rude et rapide, sans espoir ou honneur. N'y a-t-il aucune différence entre nous deux ? Comme entre le jour et la nuit, j'en conviens, dit Villon. Mais si j'étais né seigneur de Brisetout, et que vous ayez été le pauvre écolier François, la différence eût-elle été moindre? N'aurais-je pas été en train de me chauffer les genoux près de ce réchaud, pendant que vous vous seriez traîné dans la neige pour ramasser des blancs? N'aurais-je pas été le soldat, et vous le voleur? Un voleur? Cria le vieillard. Moi, un voleur? Si vous compreniez vos paroles, vous vous repentiriez de les avoir dites. Villon, de la main, fit un geste d'une impudence inimitable. Si votre seigneurie m'avait fait l'honneur de suivre mon argument, dit-il, « Je vous fais trop d'honneur en me soumettant à votre présence, » dit le chevalier. « Apprenez à retenir votre langue quand vous parlez à des hommes vieux et honorables, ou quelqu'un plus vif que moi pourrait vous réprimander d'une façon qui vous toucherait de plus près. » Il se leva alors et se mit à aller à l'autre bout de la chambre, combattant sa colère et son antipathie. Villon, à la dérobée, remplit son verre, s'assit plus à son aise, croisant les jambes et appuyant sa tête dans une main et le coude sur le dos de la chaise. Il était rempli et il avait chaud. La nuit, après tout, s'était très bien passée, et il était moralement sûr qu'il ne serait aucunement molesté dans son départ le lendemain. « Dites-moi une chose, » dit le vieillard, s'arrêtant dans sa marche. Êtes-vous vraiment un voleur? J'ai réclamé les droits sacrés de l'hospitalité, répond le poète. Monseigneur, je suis un voleur. Vous êtes bien jeune, continua le chevalier. Je ne serais jamais devenu si vieux, répliqua Villon, si je ne m'étais servi de ces 10 talents, montrant ses doigts. Ils m'ont donné à manger et à boire. Vous pouvez encore vous repentir et changer. Je me repens tous les jours, dit le poète. Il y a peu de gens autant adonnés au repentir que le pauvre François. Quant à changer, que quelqu'un d'abord change ma condition. Un homme est obligé de continuer de manger quand ce ne serait que pour lui permettre de continuer à se repentir. Le changement doit commencer dans le cœur, dit le vieillard solennellement.
Mon cher seigneur, répondit Villon, vous imaginez-vous que vraiment je vole par plaisir? Je hais de voler, autant que je hais tout autre travail et danger. Mes dents claquent quand j'aperçois un gibet. Mais il me faut manger et boire. Il faut me mêler à quelque espèce de société. Que diable! Un homme n'est pas un animal solitaire. Qui Deus feminam tradit. Faites-moi le panetier du roi. Faites-moi abbé de Saint-Denis. Faites-moi bailli du patatrac. Sûrement alors je changerai. Mais tant que vous me laisserez le pauvre écolier, François Villon, sans un blanc, dame, naturellement je resterai le même.
La grâce de Dieu est toute puissante.
Je serais un hérétique si je le mettais en question, dit François. Il vous a fait seigneur de Bristoux, bailli du patatrac. Il ne m'a donné rien que mon esprit vif sous mon chapeau, et ses 10 doigts sur les mains. Puis-je me verser du vin? Je vous remercie respectueusement. Par la grâce de Dieu, vous avez un vignoble très supérieur. Le seigneur de Brisetout reprit sa marche, les mains derrière le dos. Peut-être son esprit n'était-il pas encore très édifié sur le parallèle existant entre un soldat et un voleur. Peut-être Villon lui avait-il inspiré quelque sympathie? Peut-être ses idées étaient-elles confondues dans sa tête par ce raisonnement si peu familier. Mais, quelle que fût la cause, il désirait ardemment convertir le jeune homme à de meilleurs sentiments et il ne pouvait se décider à le renvoyer dans la rue.
« Il y a dans tout ceci quelque chose de plus que je ne puis comprendre, » dit-il enfin. Vous avez la bouche pleine de subtilité, et le diable vous a mené loin sur le mauvais chemin. Mais le diable est un esprit très faible devant la vérité de Dieu, et toutes ces subtilités s'évanouissent à un mot de véritable honneur, comme la nuit fait place au jour. Écoutez-moi une fois de plus. J'ai appris, il y a longtemps, qu'un gentilhomme doit vivre chevaleresquement pour son Dieu et l'aimer. De même pour le roi et sa dame. Et quoique j'ai vu des choses bien étranges, j'ai toujours fait en sorte de régler ma vie sur ce précepte. Ce n'est pas écrit seulement dans toutes les nobles histoires, mais dans le cœur de tout homme, s'il veut se donner la peine de le lire.
Vous parlez d'aliments et de vin. Je sais très bien que la faim est une grande souffrance à endurer. Mais vous ne parlez pas d'autres nécessités, vous ne dites rien de l'honneur, de la foi à Dieu et aux autres hommes, de courtoisie, d'amour sans reproche. Peut-être ne suis-je pas très éclairé, et cependant je crois que je le suis, vous me paraissez être un homme qui a perdu son chemin et fait une grande erreur dans sa vie. Vous pensez à vos petits besoins et vous avez complètement oublié les grands. Les vrais, les seuls. Vous êtes comme un homme qui voudrait se guérir du mal de dents le jour du jugement dernier. Car de telles choses comme l'honneur, l'amour et la foi ne sont pas seulement plus nobles que le boire et le manger, mais il me semble que vraiment nous les désirons davantage et souffrons plus intolérablement de leur absence. Je vous parle comme je crois que vous me comprendrez le mieux. N'oubliez-vous pas, quand vous avez le soin de vous remplir le ventre, un autre appétit de votre cœur qui gâte tout le plaisir de votre vie et vous tient continuellement malheureux.
Villon se sentit visiblement blessé par tout ce sermon.
« Vous croyez que je n'ai aucun sens de l'honneur ? » s'écria-t-il.
« Je suis assez pauvre, Dieu le sait. » C'est dur de voir les gens riches avec des gants et de se souffler dans les doigts. Un ventre vide est une chose bien amère, malgré que vous en parliez si légèrement.
Si vous l'aviez eu autant de fois que moi, vous changeriez de ton. Dans tous les cas, je suis un voleur. Faites-en ce que vous voudrez. Mais je ne suis pas un réprouvé de l'enfer, ou que Dieu me frappe de mort. Je veux vous faire savoir que j'ai mon honneur à moi aussi bon que le vôtre, quoique je n'en fasse pas parade tout le long du jour, comme si c'était un miracle de Dieu d'en avoir. Cela me semble tout naturel à moi, et je le tiens renfermé jusqu'au moment du besoin. Enfin, voyons, regardez, combien de temps ai-je été avec vous ici dans cette pièce? Ne m'avez-vous pas dit que vous étiez seul dans cette maison? Regardez votre vaisselle d'or. Vous êtes fort, si vous voulez, mais vous êtes vieux, désarmé, et j'ai mon couteau. Qu'avais-je à faire? Rien qu'un petit mouvement de l'épaule, et vous étiez là, avec l'acier froid dans le corps, et moi, marchant par les rues, les bras pleins de coupes d'or. Croyez-vous que je n'ai pas assez d'esprit pour voir cela? Et j'ai dédaigné l'action. Les voilà, vos gobelets sains et saufs, vous voilà, vous, votre cœur battant comme s'il était neuf, et me voilà, moi, prêt à sortir, aussi pauvre que je suis entré, avec mon blanc que vous m'avez jeté au visage. Et vous croyez que je n'ai aucun sens d'honneur? Que Dieu me pardonne. Le vieillard étendit le bras droit. Je vais vous dire ce que vous êtes, dit-il. Vous êtes un fripon, mon garçon. Un fripon fini et un vagabond. J'ai passé une heure avec vous. Eh bien, croyez-moi, je me sens taché. Et vous avez bu et mangé à ma table. Maintenant, j'en ai assez de vous. Le jour est venu. Et l'oiseau de nuit doit retourner à son nid. Voulez-vous passer devant ou marcher derrière moi? Comme vous voudrez, répliqua le poète en se levant. Je vous crois strictement honorable. Pensivement, il vida son verre. J'aurais voulu pouvoir ajouter que vous étiez intelligent, continua-t-il, se cognant la tête du poing. L'âge, la cervelle se raidit et devient rhumatisante. Le vieillard le précéda par respect pour lui-même. Villon suivit, sifflant, les pouces dans sa ceinture. « Que Dieu ait pitié de vous !» dit le seigneur de Brisetout à la porte. « Au revoir, papa !» répliqua Villon en bâillant. « Beaucoup de remerciements pour le gigot froid !» La porte se referma derrière lui. Le point du jour se faisait sentir sur les toits blancs. Un froid vif et pénétrant accompagnait la venue de la lumière. Villon s'arrêta au milieu de la rue et se détira avec bonheur. Ce vieux monsieur n'est pas des plus gais, pensa-t-il. Je me demande combien valaient ces gobelets.